penser à un autre récit biblique où la multitude de langues parlées a provoqué aussi un certain désordre. Mais c'est un événement plus triste auquel je fais référence, un événement où les multiples langues entraînent l'incompréhension et où finalement on se sépare. Cet autre récit, c'est celui de la construction de la tour de Babel. Et je vous invite à le lire à présent. Il se trouve dans la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 11, les versets 1 à 9. Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. « Et maintenant, quel que soit leur projet, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons. » Et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Ce passage bien connu n'en est pas moins étonnant. Le nombre de langues utilisées par l'humanité depuis la nuit des temps est présenté comme une malédiction voulue par Dieu, malédiction destinée à contenir son unité. Alors que l'humanité ne parlait qu'une seule langue, alors que tout le monde se comprenait, Dieu intervient miraculeusement et plus personne ne se comprend. Pourquoi Dieu punit-il les hommes à cette occasion? On peut penser que Dieu cherche là à briser une entreprise orgueilleuse. « Notre nom deviendra célèbre, » disent-ils. Est-ce là ce que Dieu punit? Il faut savoir que la construction de tours était quelque chose de répandu dans les cités mésopotamiennes et ces tours dont on parle, ce sont des pyramides à base carrée montant aussi haut que possible. Et leurs noms sont prétentieux. On connaît par exemple la maison du lien entre le ciel et la terre. La maison des sept guides du ciel et de la terre, ou encore la maison plateforme fondation du ciel et de la terre. Effectivement, ces constructions débordent de prétentions. Leurs constructeurs proclament qu'ils réussissent par leur réalisation, à relier le ciel et la terre, à se hisser au statut de Dieu. On peut comprendre que Dieu cherche à les remettre à leur place et les punisse. Mais si on regarde le texte, Dieu semble surtout embêté par le fait que si l'homme est capable de collaborer ainsi, rien ne l'arrêtera. À l'écouter, les motivations de Dieu semblent être de limiter l'homme, de lui mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi donc ? Dieu est-il mis en danger par une humanité puissante ? L'homme menace-t-il Dieu ? Quel est donc le problème avec l'unité de l'humanité ? Nos problèmes ne viennent-ils pas au contraire de la division des hommes en nations concurrentes qui s'affrontent depuis toujours dans des conflits destructeurs ? N'est-ce pas cette division qui est en fait la source de tous nos maux ? Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Ce qu'elle nous enseigne, c'est que l'homme est mauvais par nature. Pas besoin de diversité pour qu'il fasse le mal. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Le malheur de Dieu ne vient pas, le malheur de l'homme ne vient pas des multiples langues et des différentes cultures et nations qu'elles ont engendrées. Et on peut le vérifier en parcourant la Bible, des débuts, en parcourant dans la Bible les débuts de l'histoire de l'humanité. Nous savons que l'homme a été chassé du jardin d'Éden pour avoir mangé le fruit défendu. Mais les premiers pas hors du paradis sont tortueux. Ainsi, tout de suite, le premier meurtre est commis par Caïn, qui s'en prend à son propre frère, Abel, parce qu'il l'envie. De là, l'humanité avance toujours plus loin dans le mal, et rapidement, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Il décide de supprimer l'humanité, de repartir du seul homme qui le craigne, Noé. C'est l'épisode de l'Arche. La terre est entièrement inondée, l'humanité détruite. On peut envisager un nouveau départ. Mais c'est dès ce nouveau départ que les hommes forme le projet de construire la tour de Babel, pensant arriver à Dieu tout seul sans avoir besoin de le rechercher. En lisant ces passages, on a l'impression que l'homme est tel un enfant terrible, toujours à l'affût de la prochaine bêtise qu'il va faire. Et ce, alors que l'humanité est unie par une même langue. Hors de la Bible aussi, si l'histoire mondiale met en lumière les guerres entre pays, on aurait tort d'oublier les persécutions qui ont lieu au sein d'un même pays. Nous connaissons par exemple le Moyen-Âge européen, qui a vu les populations écrasées par un petit nombre de privilégiés. À coup de révolution, les privilèges tombent, mais les positions de force se sont renouvelées. Le pouvoir de l'argent a permis à quelques-uns de continuer à exploiter de grands nombres. Ce qui a fait dire à Karl Marx, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Et cette nouvelle union n'a pas été plus fructueuse. Sa version soviétique est encore un triste exemple de malheur à grande échelle. Aujourd'hui, encore, cela continue. Qui dira, par exemple, que l'union des marchés, que l'union que les marchés mettent en place à travers la mondialisation apporte le bonheur de l'humanité? Le chanteur John Featherstone chante « Ne me fais pas croire que l'homme s'améliore ». Qui ne peut voir les ravages de sa main ? Ne me fais pas croire que l'homme s'améliore, il n'en est rien. C'est le même cœur humain. L'histoire nous apprend que le plus fort a toujours la tentation d'abuser de sa position de force, et bien souvent, il le fait. Il me semble donc qu'il n'est pas judicieux de pointer du doigt l'épisode de Babel comme source des malheurs du monde. Au contraire, en divisant l'humanité, Dieu l'a sans doute, dans une certaine mesure, préservée d'elle-même. Mais revenons à la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Cet événement, c'est un peu l'opposé de la tour de Babel. Alors que des Juifs de multiples origines et de multiples langues sont rassemblés à Jérusalem, en pèlerinage pour cette fête importante, Dieu intervient miraculeusement, et là, tout le monde se comprend. Dieu vient-il remettre en place l'unité perdue ? Cet événement est spectaculaire. Les éléments naturels sont convoqués. Il y a un grand bruit, un coup de vent violent et des langues de feu qui viennent se poser sur les disciples de Jésus. De telles manifestations sont pour le moins rares. Elles sont le signe de la présence de Dieu qui se manifeste, comme dans certains autres récits de la Bible. Quand Dieu se révèle, la nature est au rendez-vous. Mais surtout, ce qui est notable, c'est que les hommes présents, les disciples de Jésus, sont transformés. Les voilà capables de parler toutes sortes de langues, et tous les pèlerins présents à Jérusalem les comprennent. Ils sont très étonnés. Et on les comprend. En fait, ces pèlerins sont témoins du début d'une nouvelle ère. Sous leurs yeux, se met en place une vie nouvelle donnée par Dieu. Jugez plus tôt. La diversité entre les hommes est préservée. Chacun continue à parler sa langue, mais tout le monde se comprend. Et ce n'est que le début. Car quelques jours après cet événement, les chrétiens choisissent de vivre ensemble et de mettre en commun leurs ressources matérielles. Voici qui étonne tous ceux qui les observent, mais aussi qui attire le respect. Et les observateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Rapidement, l'accès à Dieu n'est plus réservé aux seuls juifs, mais tous les peuples y ont accès, ainsi que Dieu l'avait promis. Et tous les chrétiens de toutes les nations se retrouvent unis dans leur diversité. Il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. L'Église est comme un corps humain où des membres différents travaillent à un même but, sous l'autorité de sa tête, Jésus. La diversité n'est alors plus un obstacle, mais une richesse. Ce tableau vous semble peut-être idyllique. Nous savons que la réalité n'est pas toujours aussi rose. Parfois, l'Église échoue dans sa mission, trébuche, et même parfois blesse les gens qui sont autour d'elle. L'actualité ne manque pas de nous rappeler ces difficultés et ces différents errements. La Bible n'est pas muette sur ces difficultés. Certes, Dieu propose d'entamer une vie nouvelle, mais l'ancienne nature, cette nature portée vers le mal, est toujours présente. C'est un combat pour chaque chrétien, et l'Église doit, elle aussi, le mener. Mais quelle trébuche parfois n'est pas le signe de l'inefficacité de cette nouvelle vie? Et quand elle parvient à entendre Dieu et à le suivre, aujourd'hui encore, elle montre cette vie nouvelle. C'est ce sur quoi nous avons voulu mettre l'accent aujourd'hui, en contemplant notre diversité à travers nos chants et notre culte. Nous sommes ici rassemblés, des chants de peuples différents et de langues nombreuses, mais aussi d'opinions politiques différentes, de spiritualité, de sensibilités différentes. Et nous sommes réunis, unis pour louer Dieu, mais aussi pour nous aimer jour après jour, mettre en commun nos moyens humains ou financiers et travailler ensemble à la gloire de Dieu. Comment cela est-il possible? C'est la question que se posent les témoins de la scène. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est l'effet du vin doux, disaient-ils. Ne voyez-vous pas que ces gens sont complètement ivres ?» Si tous voient les effets, si tous entendent dans leur langue propre, ils ont quand même du mal à comprendre ce qui se passe. Et certains se demandent s'ils n'ont pas affaire à quelques fêtards et méchés. C'est alors que Pierre, un des disciples de Jésus, prend la parole et explique à tous ce qui se passe. Ils sont témoins d'une manifestation de l'Esprit-Saint. Surtout, il leur explique d'où vient cet esprit et comment en bénéficier. Qui est donc l'Esprit-Saint? Si les disciples l'ont reconnu ce matin-là, c'est surtout parce qu'ils l'attendaient. En effet, cet esprit avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et Pierre cite le prophète Joël. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. » Mais surtout, Jésus le leur avait promis. Il leur avait dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. » Heureusement qu'il avait été annoncé, car l'esprit est plutôt mystérieux et difficile à reconnaître. Ces descriptions sont peu nombreuses et floues. C'est surtout à son effet transformateur qu'on le reconnaît. L'Esprit-Saint est une des trois personnes de la Trinité, c'est-à-dire qu'il est à la fois une personne indépendante avec une volonté et une action propre, mais à la fois il ne forme qu'un seul Dieu avec le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui est avec chacun des croyants, les assistant et les transformant. Une prédication ne suffirait pas pour faire le tour de la diversité des actions de l'Esprit Saint. Mais prenons le temps tout de même d'en avoir un aperçu. Tout d'abord, l'Esprit enseigne. Il explique la parole de Dieu et convainc de la véracité du message de Jésus. Il révèle également les secrets de Dieu. En fait, c'est lui qui nous permet d'avoir la foi. La Bible nous enseigne que personne ne peut affirmer que Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Ensuite, l'Esprit est une aide pour notre vie quotidienne. Il nous aide à surmonter notre faiblesse et même, il prie pour nous, à notre place, quand nous ne savons pas comment prier. Il nous encourage pour nous aider à aller de l'avant. Il nous donne la joie et la paix. Finalement, l'Esprit nous transforme afin de nous rendre saints, de nous faire avancer dans cette vie nouvelle voulue par Dieu. Il nous aide aussi à avoir une vie cohérente, conduite selon la volonté de Dieu. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. C'est lui qui nous remplit de l'amour de Dieu afin que nous puissions, malgré nos différences, nous aimer. L'Esprit change également notre caractère en développant en nous son fruit. Amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous portons alors le signe de notre appartenance à Dieu dans notre comportement. La responsabilité du croyant est de laisser l'Esprit agir, de le suivre lui, plutôt que de suivre les réflexes de la nature humaine. Ce n'est pas toujours évident, car comme le disait le réformateur Martin Luther, je sais bien que le vieil homme qui est en moi doit être noyé pour que surgisse l'homme nouveau. Mais il sait nager, le bougre, et il résiste. C'est en choisissant, jour après jour, d'écouter l'Esprit que nous pourrons vivre la vie nouvelle que Dieu veut pour nous. Reste la seconde question. Comment obtenir l'Esprit ? Nous l'avons lu, Jésus a promis l'Esprit à ses disciples et c'est lui qui l'a envoyé à tous à la Pentecôte. Cet Esprit, Jésus le donne à tous les croyants, ceux qui ont cru à son message, hier comme aujourd'hui. L'Esprit devient le signe distinctif des croyants, le sceau par lequel ils sont marqués. Mais quel est ce message de Jésus-Christ auquel il faut croire? Nous l'avons dit, tous les hommes sont mauvais, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Dieu nous demande de le reconnaître. Reconnaître que nous sommes mauvais, que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Jésus est mort à Pâques pour porter les fautes de ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, chacun a la possibilité de reconnaître sa dette envers Dieu et d'accepter que la mort de Jésus règle cette dette, la paie à notre place. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ainsi, à ceux qui sont prêts à se reconnaître mauvais, ceux qui sont prêts à passer par son intermédiaire, Jésus-Christ offre une nouvelle relation avec Dieu dans son règne. C'est la vie nouvelle par son esprit. Au moment de conclure, il est judicieux de demander ce que vous pensez de ce que vous voyez et entendez aujourd'hui. Est-ce que, comme ceux qui pensaient que les disciples avaient un peu abusé de la boisson, vous pensez qu'il faut être un peu illuminé ou naïf pour compter sur cette vie nouvelle ? Ou croyez-vous qu'en Jésus-Christ, cette vie nouvelle est possible ? La Bible nous invite, soyez remplis de l'Esprit. Non pas que ce soit par nos efforts que nous nous remplissions nous-mêmes de cet Esprit, c'est bien Dieu qui remplit le croyant. Mais de notre côté, nous devons croire pour que Jésus nous marque du sceau de son Esprit. Puis nous devons le laisser agir en nous et nous laisser transformer. Cette invitation à être rempli de l'Esprit s'adresse à tous. Certains hésitent encore à suivre Jésus. Pour eux, elle est une invitation à saisir l'offre du salut en Jésus et à croire en lui. Alors, l'Esprit pourra faire son œuvre d'enseignement pour expliquer, pour convaincre, pour révéler les secrets de Dieu et pour donner la foi. Certains qui ont choisi de suivre Jésus sont en proie aux difficultés. En effet, la vie chrétienne n'est pas toujours rose. La foi ne détache pas la souffrance. Pour eux, c'est un encouragement à bénéficier de l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, qui prie pour nous, qui nous encourage et qui nous donne joie et paix. D'autres suivent Jésus dans la joie. Pour eux, elle est une exhortation à ne pas s'arrêter là, mais à continuer à laisser l'Esprit travailler, de prier pour aller toujours plus loin dans la transformation et pour vivre une vie cohérente, remplie de l'amour de Dieu et portant les signes de sa présence. Je citais plutôt le chanteur John Featherstone. Ne me fais pas croire que l'homme s'améliore. Sa chanson se poursuit. Un seul espoir pour le monde. Un seul espoir pour la terre. Un seul espoir pour les peuples. Un seul espoir. La vie nouvelle en Jésus-Christ, par son esprit. Une vie nouvelle où la diversité est une richesse. Et croyez-moi, c'est une bonne nouvelle. Je vous propose de le chanter. Dieu a tant aimé le monde.